Nous entendons dès à présent notre triomphant avenir marcher à grands pas dans l'histoire. Oui, cela va commencer.
Ce vendredi, Aurélie Carrier, témoin du grand soir.
Faut descendre dans la rue quand il y a du grabuge, mille bombes. Pour gueuler, vive la sociale et cogner sur les flics, faire soi-même la chouette besogne en chambardant toutes les vieilles paperasses des proprios, les boîtes à curer et tout ce qui fait l'existence de notre garce de société.
Nous sommes, je vous rassure, autour de 1900, dans une atmosphère de changement de siècle. Il y a peu, les ruines du Paris de la Commune fumaient encore. Les hommes en habit noir de la Troisième République sont au pouvoir, mais les anarchistes ne veulent pas passer la moindre alliance avec eux. Leur but, c'est l'émancipation sans compromis. Ils veulent croire que, sous leur coup de boutoir, le vieil ordre bourgeois vermoulu va s'écrouler. Il y aura un soir, il y aura un matin, un soir chantera le coq rouge, et l'aube se lèvera sur une ère nouvelle où les gueux camperont dans les maisons des riches. Il y a dans ces années-là un moment libertaire du mouvement ouvrier français. Délaissant la propagande par le fait violent, les anarchistes ont investi les bourses du travail et la CGT. Ils conjuguent ensemble grand soir et grève générale. Il ne s'agit plus de dire le chapelet des grèves revendicatives. Il faut un arrêt de toutes les forces de la nation, une grève généralissime. Dès 1904, ils dessinent un horizon, le 1er mai 1906. Les anarchistes savent que ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la mobilisation des individus pour des défilés de masse, c'est la transformation de chacun des individus qui y participent. Aurélie Carrier, notre invitée, une jeune historienne de 30 ans, essaye d'entrer dans le désir qui circule si ardemment à cette époque. Ce n'est pas facile, il faut de la méthode, l'histoire est une discipline, mais la préparation d'un livre sur le grand soir, comme la préparation du grand soir lui-même, suppose aussi de l'indiscipline.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Aurélie Carrier, bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre chez Libertalia, on dira ce que signifie ce mot dans un instant. Bon, on peut dire que vous êtes d'une famille de gauche ordinaire, vous avez fait des études d'histoire ordinaire, je veux dire... dans un climat politique et social ordinaire. Il y a eu quelques mouvements sociaux à Tolbiac quand vous y êtes étudiante.
Oui, la première année, le mouvement du CPE. Donc, formidable entrée dans l'histoire et son étude.
Formidable. Votre métier, correctrice d'imprimerie, on le dira tout à l'heure. Je crois que le premier sens du mot, c'est qui fait peur, non?
Un petit peu, il y a un côté redresseur de tort dans le correcteur, mais ce serait plus juste de dire correcteur de presse, puisqu'aujourd'hui les correcteurs ne travaillent plus dans les imprimeries.
Alors on va venir à la suite de votre vie, mais il faut quand même expliquer que vous avez fait, comme on dit maintenant, M1.
Un master, oui. Ouais. En deux temps, une première année de recherche donc sur essayer de cerner et de traquer cette expression et son imaginaire, l'imaginaire du révolutionnaire du grand soir. Et ensuite, en deuxième année, la reprise de cette étude avec un instant T, un événement, voir comment ça s'incarne.
La grève générale.
La grève générale et le mouvement du 1er mai 1906.
Mais vous n'avez pas voulu être professeur?
Non.
Vous avez plutôt des envies de minutie et de précision. C'est pour ça que vous êtes devenue, vous dites correcteur ou correctrice, corrigez-moi.
Correctrice.
Ouais. Alors quand on travaille pour une maison d'édition, quand on travaille pour des journaux, le correcteur est en contact soit avec le rédacteur, soit avec le supérieur du rédacteur, et il corrige aussi sur le fond. Enfin, il dit « j'ai pas compris ».
Oui, bien sûr.
Par exemple, je vous ai donné mon chapeau à corriger. L'histoire est une discipline, mais la préparation d'un livre sur le grand soir suppose d'abord l'indiscipline. Ça vous paraissait bizarre comme formulation?
Eh bien, l'histoire est une discipline et la quête de l'émancipation en est une aussi, l'émancipation sociale, qui me gênait un petit peu dans l'indiscipline. C'était, je voyais bien l'idée de désobéissance ou d'être réfractaire à une certaine norme pour laquelle il faut de l'indiscipline. Mais malgré tout, le travail historien, comme le travail pour arriver à la Révolution, demande, je pense, une certaine discipline.
on va voir que dans la fabrication de votre livre, le mouvement de Nuit Debout, Place de la République a eu de l'importance. Qu'est-ce qui vous a attiré vers Nuit Debout ?
Deux choses. Sur le, d'un point de vue urbain et social, j'ai aimé le caractère spontané de ce rassemblement, du moins au début. Il y avait un plaisir, je pense, à se retrouver, à discuter et à occuper un lieu public, puisque on supprime les bancs, on se réunit moins dans la rue.
Donc il y a de moins en moins d'aménités urbaines, c'est le mot exact qu'on utilise maintenant. Mm-hmm. À Nuit Debout, il y avait de l'agitation républicaine.
Il y a quelque chose qui se passe ici de plus que ce qu'on pouvait imaginer qui se passerait.
C'est une manière comme une autre de faire que les choses changent. Et je pense que le fait qu'on soit beaucoup veut dire quelque chose.
Je suis venu plutôt sentir ce qui s'exprime. C'est-à-dire, il y a les thèmes, mais aussi qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils attendent.
Et un stand de Nuit Debout attire votre attention. On a promis d'expliquer le mot Libertalia, les éditions Libertalia.
Les éditions Libertalia, donc Libertalia, c'est l'utopie pirate.
À Madagascar.
Et une maison d'édition de critique sociale dont les livres et notamment les couvertures avaient attiré l'œil. Et c'est à l'occasion de Nuit Debout qu'ils m'ont dit qu'ils étaient favorables à l'idée de ce livre.
Chez Libertalia, ce sont des professionnels d'autres métiers qui se retrouvent pour faire de l'édition dans une association libre.
Tout à fait. Il y a un professeur et une correctrice et un illustrateur.
Et dites-moi, comment on s'organise, puisqu'on parle métier collectif, aujourd'hui le métier de correcteur? Vous me dites qu'il y a des fonctions différentes, suiveur, piéton, rouleur.
Ça, c'est un vocabulaire propre à la presse. On pourrait déjà définir, il y a les correcteurs donc, de presse et les correcteurs qui travaillent très souvent chez eux pour les maisons d'édition, qui est... Surtout, c'est ceux-là qui sont exposés à la précarité aujourd'hui. Donc, les piétons sont les personnes qui sont embauchées dans le journal, qui sont en CDI. Et les rouleurs et les suiveurs désignent les deux catégories de pigistes, à savoir ceux qui sont très réguliers et ceux qui roulent, sinon, dans plusieurs journaux différents.
Mais il me semblait qu'il y a une tradition chez les correcteurs. Je croyais que vous étiez entré dans ce métier parce que c'était un métier très fréquenté par les anarchistes.
Tout à fait. Il y a une vraie tradition anarcho-syndicaliste dans le métier de correcteur. Le syndicat des correcteurs est un syndicat très ancien, parce qu'il est créé dès 1881. Et s'il fait partie du syndicat du livre, du syndicat CGT du livre, qui est la Fédération du livre, dont on trouve à la tête Auguste Koeffer, qui fait partie du courant réformiste pendant de longues années, c'est une composante révolutionnaire de cette fédération.
Bon, on va préciser le sens des mots, composante réformiste, anarcho-syndicaliste, non. Tout commence, dans votre observation du grand soir, par un désir. Il n'y a pas de politique sans désir. Et le mot a d'abord un sens poétique. Je vous laisse faire une lecture que vous avez choisie à dessein, Rémi Carrier.
Donc c'est le début d'un poème qui s'appelle « Chant lyrique pour le monde à venir » de Jean Carrère, et qui se compose en trois parties, et la première s'appelle « Le poète au soir du monde ». Le couchant noir, le couchant noir, éclos mon œuvre, fleuve de sang dans le grand soir, fleurit mon œuvre, ciel sans astre, nuit sans espoir, attends mon œuvre, désert les paradis perdus, jaillit mon rêve, plus de prophètes, plus d'élus. Grandit mon rêve, nul sauveur ne descendra plus. Monte mon rêve, sonnera-t-il le clair matin? Renaît ma joie, qui reverdira le jardin? Chante ma joie, ô demain, qu'apporte demain? La joie, la joie.
Le grand soir, c'est une sorte d'inversion. Le soir avant le jour, c'est pas d'abord le chant du jour.
Non, tout à fait. On pourra noter justement que tout au long du XIXe siècle, la Révolution était souvent métaphorisée justement sous l'image du grand jour, et que quand, dans la dernière décennie, dans les années 1890, cette expression de grand soir apparaît, le grand soir étant le symbole même de la destruction de la société bourgeoise, dont le lendemain, à l'aube, verra l'harmonie et la société nouvelle, cet obscurcissement du mot, cette passage du jour, du grand jour au grand soir, tient à plusieurs raisons. D'une part, parce que la succession des mouvements révolutionnaires tout au long du XIXe siècle ont été marqués, après la Révolution 89, mais par l'échec, et surtout quand on pense à 1848 où la Commune ont été réprimées dans le sang. Donc il y a une idée de vengeance, il y a aussi une idée que la Révolution sera nécessairement violente, qu'on ne pourra plus être pacifique. Et il y a aussi une... Donc de cette radicalisation s'accompagne aussi une laïcisation, pourrait-on dire, des images, puisque le grand jour peut bien sûr faire référence à la Bible. Et dans les représentations du grand soir que j'ai trouvées, notamment dans la presse anarchiste, finalement, il n'est plus question de justice divine, mais bien de justice populaire avec le grand soir. C'est le peuple qui est l'agent du changement et qui va œuvrer pour le grand soir et la transformation.
Bon, enfin, dans votre livre, vous vous interrogez quand même. Vous parlez là à l'antenne de laïcisation, mais ce ciel noir ravagé par les flammes, ça ravive quand même un imaginaire religieux. Vous êtes bien obligé d'y consentir.
Tout à fait. Il y a une dimension à la fois eschatologique et messianique dans le grand soir. D'une part, parce que on peut penser que au XIXe siècle, même s'il y a un mouvement de, je sais pas si on peut dire de déchristianisation, en tout cas d'anticléricalisme, qui se manifeste aussi au moment lié à l'industrialisation, au moment où les prolétaires, les nouveaux prolétaires quittent les campagnes pour aller travailler à la ville et abandonnent aussi parfois souvent une pratique religieuse. Et d'autre part, l'héritage catholique de la France est encore quand même très présent, donc il n'est pas anodin d'user des mêmes images pour, encore une fois, frapper l'imagination et effectivement une certaine forme d'incantation parfois.
Et puis prosaïquement, on est en fin de siècle.
La fin de siècle conjuguée à la crise économique et aussi, encore une fois, j'insiste, à la condition de misère, de la condition ouvrière. Tout cela se rejoint pour croire en le grand soir, pour croire aussi, on croit en ses forces. On pense que la révolution est imminente.
Alors vous avez lu beaucoup de journaux anarchistes. On va entendre un extrait du Père Pénard de Pouget. Vous avez lu de la presse de province aussi. Vous trouvez pas ça un peu excessif, injuste, violent?
Non, je pense que c'est violent, c'est sûr. Enfin, il y a une vraie liberté de parole, une liberté de ton qui étonnera tout lecteur d'aujourd'hui. Mais on peut opposer à la violence des propagandistes et des écrivains anarchistes la violence de la société.
Les correcteurs d'aujourd'hui seraient certainement obligés de raboter le Père Pénard.
Faut descendre dans la rue quand il y a du grabuge, mille bombes, pour gueuler « Vive la sociale !» et cogner sur les flics, faire soi-même la chouette besogne en chambardant toutes les vieilles paperasses des proprios, les boîtes à curés et tout ce qui fait l'existence de notre garce de société. Quand viendra le jour de la rigolade, masse de polka, qu'est-ce que le populo leur fera danser? C'est le grand chambardement qui commence, mille tonnerres! Et comme les crèves la faim sont des gens d'attaque, c'est fini de rigoler pour les ventrus. Tas de fainéants d'Aristo, continuez donc à vous séparer des peinards. Au grand jour de la sociale, vous serez salement noblés.
Tous les gens qui nous empoisonnent, les épiciers, les boulangers, tous les marchands d'eau en bonbonne, les herboristes, les charcutiers, on les parquera à la villette, on les hachera en petits morceaux et on fera de jolies côtelettes, des pieds de cochon, des fraises de veau. Nous allons mettre les pieds dans le plat, leurs rognons seront vilains à voir quand viendra le matin du grand soir. Les patrons qui nous horripilent, qui nous cherchent chicane et tracas, jour la faudra qu'ils se tiennent tranquilles, sans quoi il y aura des aléas. On les enfermera en masse dans une grande caisse en bois sculpté pour en faire de la ragognasse à grands coups de machine à bosseler. Pendant ce temps, l'orchestre jouera la valse des yeux au beurre noir, quand viendra le matin du grand soir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec ce vendredi, témoin à sa manière du grand soir, elle a publié sur ce sujet un livre aux éditions Libertalia. Aurélie Carrier. Le style du vocabulaire du Grand Soir, au fond, c'est assez facile à pasticher. Ce qu'on a entendu, là, c'est Marc Augeret.
Oui.
Et c'est une chanson d'anarchiste qu'il interprète ?
Non. Enfin, elle n'est pas écrite par des anarchistes. C'est une chanson humoristique, assez drôle, finalement, qui, tout en faisant passer le message du Grand Soir, se moque tant, on va dire, des anarchistes que des possédants et des bourgeois qui craignaient le Grand Soir.
C'est un pastiche ?
Oui.
D'accord, merci de l'aveu. À l'échec de la propagande par le fait, l'attentat, on va pas reparler de la bande de Bonneau, etc., les anarchistes décident de substituer une expérience syndicale qui utilise les libertés, le journal, le tract, la brochure, la possibilité de se réunir. Ce choix du syndicalisme, on l'a déjà un peu évoqué en faisant référence à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il provoque ? Comment ça se passe ?
Alors, il serait plus exact de dire même qu'il renoue avec la tradition syndicale, puisque au moment de la première internationale, la voie syndicaliste est déjà évoquée, et on parle déjà à un moment de grève générale, qu'on désigne à ce moment-là sous le nom de grève universelle. Donc, après la période des attentats, de la propagande par le fait, il y a les lois scélérates, qui ont pour conséquence d'interdire pratiquement la totalité des journaux anarchistes, donc qui est quand même l'un des moyens de propagande. Et il y a l'idée d'investir les syndicats pour aussi orienter vers l'action révolutionnaire la classe ouvrière. Et ça se traduit notamment avec la création en 1895 de la Confédération Générale du Travail, qui ensuite, en 1902, s'unifie avec la Fédération des Bourses du Travail.
Et oui, la CGT, c'était son moment anarchiste.
Voilà, son mouvement, d'action directe. Ouais.
Et les Bourses du Travail, alors qu'est-ce que c'est que les Bourses du Travail ? On peut les rapprocher des maisons du peuple. Les Bourses du Travail, le mouvement a été animé par Fernand Pelloutier, dans la Loire-Atlantique, où la tradition anarchiste continue. Les maisons du peuple, on en a conçu, construit, rêvé un peu partout. Voici ici une lecture au Théâtre du Rond-Point par Marcel Maréchal du chef-d'œuvre de son grand ami Louis Guillou. C'est la maison du peuple de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc les choux, disait Louis Guillou quand il ne l'aimait pas, et Saint-Brieuc, disait-il affectueusement, quand il se souvenait de son père, un artisan cordonnier qui faisait partie du mouvement qui rêvait d'une maison du peuple.
Ma mère nous parla de la maison du peuple. Dans mon imagination d'enfant, tout cela, c'était la révolution. Je me mis à crier « La révolution !» Notre maison du peuple, il faut la bâtir nous-mêmes. Nous-mêmes ! Et pourquoi pas ? Il y eut un long moment de silence. Avec nos bras camarades, on peut bâtir. En y mettant chacun un peu du sien, on peut trouver l'argent et acheter le terrain. Le surlendemain, un camarade apporta chez nous un tronc pour la maison du peuple, que mon père accrocha au mur de son atelier. Un autre tronc fut installé à la bourse du travail. Les syndicats donnèrent de l'argent. Quelques mois plus tard, on acheta un petit terrain. Au beau temps, ils commencèrent les travaux. Le premier dimanche, mon père m'emmena. Il me fit lever de bonne heure et mettre de vieux habits. Il était un peu plus de 7 heures quand nous arrivâmes sur le terrain. Une dizaine de camarades étaient déjà à l'ouvrage. Pélo chantait « Il n'y a plus de guerre, tous les rois sont morts. Il n'y a qu'en Angleterre qu'il existe encore. »« Salut !» cria-t-il à mon père. « Tu nous amènes du renfort ?» Pour faire comme mon père et tous les autres, je retroussais les manches de ma chemise. Pélo cria « Ohé, rassemblement des outils !»
Quand vous lisez un texte comme celui-ci ou d'autres que vous avez pratiqués dans la presse anarchiste, c'est émouvant quand même, l'effort qu'ont fait ces gens, leur souvenir est mort. Quelle émotion ça provoque chez vous ?
Bah effectivement, une émotion, j'ai envie de dire, assez intacte aussi, puisque c'est des combattants. C'est une volonté de s'organiser et de se rassembler. Il y a dans la pensée anarchiste et telle qu'elle s'incarne dans le syndicalisme révolutionnaire, l'idée, une idée d'autonomie individuelle qui, couplée à l'association entre les gens, permettra justement l'autonomie collective vers, encore une fois, vers la révolution sociale.
Et quand on vous parle, ou quand on parlait aux syndicalistes révolutionnaires de 1902-3, de grèves particulières, de grèves revendicatives. Ils opposaient un autre idéal, la grève générale.
La grève générale. Bah, ça permet justement de revenir par exemple à Fernand Peloutier, l'un des propagateurs de cette idée, avec un moment justement où il fait voter le principe de la grève générale, même dans un congrès politique, au moment même où les bombes des anarchistes se font encore entendre, la question de la grève générale est de plus en plus discutée. Et alors effectivement que dans un premier temps, les grèves, comme on disait, partielles, étaient mal vues, puisque le résultat était une sorte de double peine pour l'ouvrier. D'une part, il n'avait pas travaillé, donc il ne gagnait pas d'argent, et souvent il retournait à l'atelier ou à l'usine en ayant eu peu ou pas de satisfaction de ses revendications. La grève générale est tout à la fois un moyen et une stratégie pour parvenir à ses fins.
Mais quelles en sont les étapes? Il faut bien les définir devant ceux qu'on appelle à la grève. C'est un arrêt progressif?
Oui, un arrêt. Alors en fait, ce n'est justement pas une grève généralisée, mais effectivement une grève...
Généralissime.
Voilà.
Si vous permettez le vocabulaire militaire.
Tout à fait. Bah, il y a, comme le dit Peloutier, en fait, la grève générale, ça permet de faire l'économie de l'insurrection. Donc s'il y aura peut-être une part de violence, puisque le capital ne se laissera pas désarmer sans réaction, ça évite une violence extrême. Et c'est commencer par bloquer les moyens de transport, les dépôts d'armes à l'époque, tout ce qui est l'énergie. Donc voilà, l'énergie, le transport, les gaziers, enfin toutes les corporations sur qui on compte encore aujourd'hui quand on veut démarrer une grève générale.
Il y avait moins de routiers qu'aujourd'hui. On verra ce qu'il advient du mouvement des routiers. Et alors, il faut formaliser, définir un horizon, et ça pourrait être le 1er mai, lequel est d'origine américaine.
Tout à fait.
Et la CGT, au début du XXe siècle, en revendique peu à peu le leadership.
Oui. Le premier 1er mai de l'histoire international, donc est en 1886. Et en fait, il y a un parallélisme à faire entre 1886 et 1906, puisque, effectivement, les membres de la Confédération Générale du Travail vont reprendre la tactique et la campagne de propagande qu'avaient fait les Américains. Émile Pouget, qui est devenu notamment le rédacteur du journal de la CGT, La Voix du Peuple, donc dans un langage là peut-être moins faubourien.
Que dans le Père Pénard.
Voilà, puisqu'il s'adresse à toute la classe ouvrière, dit « imitons les Américains », qui, donc dès 1886, font une grève aussi pour, à la base, une revendication, la revendication des 8 heures, donc une revendication partielle. Et donc cette idée de 1er mai, de manifestation, traverse l'Atlantique, et d'abord discutée dans un congrès politique socialiste en 1889. Mais alors qu'elle n'était pas prévue à l'origine, la grève survient le 1er mai 1890, le jour de la première célébration en France. Et petit à petit, effectivement, les syndicats s'en emparent, jusqu'à l'idée que le 1er mai, en fait, devient vraiment dans l'imaginaire militant d'avant 1914, une figure de la Révolution, le jour où la grève générale pourra débuter.
Alors la CGT le prend très au sérieux, le 1er mai 1906, puisqu'elle commence à le préparer dès 1904. Les élections législatives sont programmées quelques mois après le 1er mai 1906, et un peu avant intervient la catastrophe minière de Courrières, qui provoque une émotion très vaste. Alors nous sommes ici, récit dans une émission de Ludovic Cellier sur France Culture, à la veille du 1er mai 1906, quand Paris va se réveiller en état de petit siège.
Je veux l'unification des horaires d'entrée et de sortie pour toutes les fabriques, la révision générale des tarifs de travail, la suppression des amendes et des règlements abusifs, des améliorations d'hygiène dans tous les ateliers, la création d'une bourse du travail, la journée de 8 heures.
Comme aux États-Unis d'Amérique.
Comme en Amérique. D'ailleurs, le 1er mai, On va organiser une grande fête pour nous. Une grande fête en souvenir. Une grande fête pour revendiquer.
Mais il faut travailler.
On travaillera pas.
Le capital et ses usines, enchaînés du matin au soir à la machine. Pour notre peine des salaires de famine, et du
je peux rappeler le 1er mai où j'étais, si j'ose dire, de l'autre côté de la barricade, puisque je faisais aussi mon service militaire à Amiens, et que les pouvoirs publics, à cette époque, ont eu vraiment la grande peur. C'est le 1er mai 1906. Ça a fait peur à la bourgeoisie partout. Alors j'étais en province, puisque j'étais à Amiens, mais les dispositions des pouvoirs publics étaient exactement de même nature que celles qui avaient été prises à Paris. Les gens qui ont eu peur ont fait des provisions, car à l'époque, la classe ouvrière faisait peur.
On ne va pas raconter, vous le faites dans Le Grand Soir, édition Libertalia, Henri Descarrier, le 1er mai 1906, c'est le lendemain, mais vous prenez un grand plaisir à raconter la grande frousse.
Oui, bah à la suite de la catastrophe de Courrières, il y a des grèves qui démarrent dans le bassin minier, et beaucoup de colère aussi, puisque donc plus de 1000 morts, plus de 2 semaines après, une quinzaine d'ouvriers ressortent par eux-mêmes de la mine. Et la presse conservatrice, notamment donc surtout l'Écho de Paris et le journal monarchiste Le Gaulois, vont pendant, même avant d'ailleurs la catastrophe de Courrières, mais ça prend un autre tournant 2 mois avant le 1er mai, vont faire chaque jour... Dans l'Écho de Paris, en une, il y a La Révolution qui vient, avec pensée comme un roman feuilleton, une soi-disant enquête d'un journaliste qui s'amuse. Lui, il prend ça très au sérieux, mais à parler donc des meneurs, comme il dit, des gréviculteurs de la Confédération Générale du Travail.
Le mot gréviculteur était courant à l'époque.
En disant, il nous prépare le grand chambardement pour le 1er mai, il nous prépare le grand soir, Paris sera à feu et à sang, avec parfois des descriptions très minutieuses de ce qui pourrait se passer, les conduites de gaz seront crevées, etc., etc.
Enfin, cette enquête donne des résultats, ainsi que toutes celles qui l'accompagnent, puisque les demandes de location de coffre-fort augmentent, on observe des mouvements de capitaux vers l'étranger, la constitution de stocks, et puis alors, cette anecdote est-elle vraie? Vous vous posez la question, il faut peut-être la corriger. Des propriétaires précautionneux auraient amené une vache laitière dans un immeuble de la rue Royale à Paris. C'était une marche de l'histoire de circonstances, vous l'aurez noté, en compagnie d'Aurélie Carrier.
Merci.
Le Grand Soir, c'est aux éditions Libertalia. L'émission avait été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Lincoln Egulesco. À la technique, Nicolas Slimani. La réalisation, Audrey Ripouille.